Donc là, on est au Jardin Center. Donc c'est un jardin en fait qui est consacré aux plantes à parfum, et on propose aux visiteurs en fait une promenade olfactive. Et c'est un jardin qui fait donc appel aux sens. Alors là, par exemple, on a du Pelargonium rosa. Alors en fait, c'est une plante qui sent très bon. Il suffit de frotter les feuilles et en fait, on obtient une odeur de rose qui est vraiment très 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 intéressante. Et puis on a d'autres types de Pelargonium. Et dans ce jardin, on a d'autres parterres consacrés aux différents type de lavande, également au thym, aux différentes sauges, etc.
Du coup, ici, on peut les toucher, les plantes.
On peut les toucher et surtout les sentir et voire même les goûter.
Pour ce nouvel épisode de l'Écho des communes consacré à Man Direction, le musée et les jardins de Salagon, je suis avec Antonin Chabert. Vous êtes responsable de l'unité scientifique au musée et ethnologue. Bonjour.
Bonjour.
Salagon, c'est un lieu chargé d'histoire, je le disais, qui fait la beauté de ce site car on est dans un prieuré. Depuis quand, du coup, ce lieu abrite ce musée et ces jardins? Ça fait combien de temps?
Alors c'est un site qui est chargé d'histoire puisque on peut voir plus de 2000 ans d'histoire en fait sur le site de Salagon, hein, avec les vestiges d'une villa gallo-romaine qui a été quand même assez importante dans la région. Et puis on y trouve également une église romane et puis un prieuré Renaissance. Donc voilà, c'est vraiment un lieu d'histoire et de mémoire. Et le musée effectivement est assez récent, finalement, à l'échelle de cette grande histoire, puisque le musée a été créé à partir des collectes d'Alpes de Lumière, donc l'association fondée par Pierre Martel dans les années 50, où on a commencé en fait à collecter des objets de la ruralité. Et ensuite, c'est à partir des années 80 en fait que le musée a été ouvert, donc précisément en 1981. À l'époque, ça s'appelait Conservatoire ethnologique de la Haute-Provence. Et puis donc le musée a été créé à ce moment-là et les jardins également au milieu des années 80 en fait. Et à partir du milieu des années 80, on a eu quatre grands jardins à thème qui ont été créés.
Est-ce que du coup la visite c'est complémentaire, le musée, les jardins, ou est-ce que finalement c'est deux choses très différentes qu'on va découvrir ici?
On peut voir effectivement toutes les facettes hein, de ce lieu culturel, mais ce qu'on essaie de montrer, c'est finalement la cohérence de ce tout et de relier en fait les différentes dimensions, hein, donc à la fois historique avec les vestiges archéologiques, l'histoire, le monument historique, les jardins et les expositions. On essaie vraiment de créer du lien entre tout ça.
Le musée, on se penche vraiment sur l'histoire des Alpes de Haute-Provence précisément.
Alors c'est un musée qui effectivement a une collection locale. Ce sont des objets agricoles, artisanaux, on a aussi du textile, des objets du quotidien qui sont vraiment locaux, qui ont été collectés donc sur le territoire, dans les Alpes de Haute-Provence, mais également dans le nord du Vaucluse. Mais aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est aussi de parler de la société contemporaine, donc de mettre en perspective les collections du musée, qui constitue un patrimoine avec effectivement des thématiques vraiment contemporaines et puis en même temps aussi des artistes qui viennent du monde entier puisqu'on a fait et on fait encore toujours hein, des expos avec des artistes chinois par exemple.
Les objets du quotidien, il y en a combien? Est-ce que c'est chiffré?
Alors là, on n'a pas de chiffres exacts mais des dizaines de milliers qui donc sont dans nos réserves et donc ont été collectés depuis les années 50 jusqu'aux années 90-2000, jusqu'aux années 2000 on va dire. Pour aller vraiment en gros quoi, et ce sont des objets qui datent de la fin du 19e jusqu'aux années 60, donc des objets de la première moitié du 20e siècle.
Et comment est-ce qu'on fait justement là aujourd'hui pour amener l'époque contemporaine dans ce musée? Alors vous le disiez, c'est par les expositions notamment?
Dans nos expositions, on essaie de vraiment parler des aspects historiques et vraiment donc contemporains de la société de Haute-Provence. Et comment on fait? En fait, on va faire des enquêtes ethnologiques, c'est-à-dire qu'on va interroger des gens sur leurs pratiques, leur quotidien, en fonction de thématiques qui correspondent aux différentes expositions, bien sûr. Donc on va mener ces entretiens, donc faire des enquêtes ethnologiques, et puis ces gens-là vont nous prêter des objets, on va faire des photographies, des films qui vont documenter en fait et montrer la société d'aujourd'hui.
Donc c'est un lieu aussi de recherche qui évolue.
C'est un lieu de recherche labellisé Ethnopole par le ministère de la Culture. Alors, c'est un label qui n'est pas très connu, mais auquel on tient, puisque c'est un label qui a été créé en 1996 et Salagon a été un des premiers lieux en France labellisé Ethnopole. Donc, en fait, aujourd'hui, on a une dizaine d'ethnopoles en France. Et en fait, c'est des lieux effectivement de recherche, c'est-à-dire qu'on a un centre de documentation, une bibliothèque, une sonothèque aussi, c'est-à-dire qu'on conserve des centaines d'enregistrements ethnologiques qui ont été enregistrés depuis les années 80 et on enrichit ça des nouvelles enquêtes au fil des expositions. Donc on a ce centre de documentation qui est consulté par des chercheurs et on organise des séminaires, des journées d'études. On travaille avec des chercheurs pour nos expositions, pour nos séminaires. Donc c'est un lieu effectivement de réflexion, de recherche et de transmission.
Et alors les jardins, là-dedans, du coup?
Alors les jardins, leur spécificité, et c'est assez unique en France, c'est que c'est des jardins non pas botaniques comme on pourrait trouver un peu partout, mais ethnobotanique. Alors c'est un mot compliqué, mais qui désigne finalement quelque chose de très simple. C'est les rapports des sociétés aux plantes dans des aspects très matériels, donc l'alimentation, la médecine, différents artisanats comme la vannerie ou bien les plantes tinctoriales aussi, mais également dans des aspects plus symboliques. Ça peut être les représentations des plantes à travers l'histoire, les sociétés, leur rapport aussi à certaines religions ou à certaines croyances. Donc l'ethnobotanique, c'est vraiment voilà ce rapport aux plantes, comment on utilise les plantes aussi. Et donc pour ça, on a quatre jardins à thème qui vont illustrer ces thématiques. Donc le jardin médiéval, le jardin des temps modernes, le jardin de senteur et le jardin de simple. Alors là, on est dans le jardin des temps modernes qui en fait montre l'origine géographique d'un certain nombre de plantes qu'on utilise aujourd'hui dans notre vie quotidienne, mais qui sont issues en fait d'échanges commerciaux avec différentes régions du monde. Et c'est un jardin qui montre en fait l'histoire de ces plantes et qui propose un voyage dans le temps et l'espace. Ce jardin se divise en fait en différentes parterres qui représentent des zones géographiques. Donc on a toute une zone qui est consacrée aux plantes et aux arbres qui viennent de la zone Europe, Méditerranée, Afrique, toute une autre zone qui concerne le monde indien et asiatique, et puis enfin toutes les plantes qui ont été ramenées des Amériques à l'issue des grandes découvertes.
Est-ce qu'il y a un petit peu des plantes emblématiques là, selon vous?
Alors oui, c'est très intéressant parce que des fois on pense que certaines plantes sont originaires de Méditerranée, de nos régions depuis très longtemps, et en fait c'est pas forcément le cas. Par exemple, le basilic, qui est quand même emblématique de la cuisine méditerranéenne, et ben en fait c'est une plante qui vient d'Inde et qui a été importé comme ça avec les échanges commerciaux avec le monde indien. C'est le cas aussi du poivre. Le poivrier, en fait, c'est une plante qui vient également d'Inde et qui a été importée. Alors après, il y a d'autres plantes aussi qui sont très intéressantes parce que il y a des plantes qui ont été importées des Amériques. C'est le cas de la tomate, évidemment. C'est le cas du maïs, c'est le cas du haricot. Mais il y a des plantes aussi que les Européens ont importées dans ces pays qui ont été découverts, comme par exemple la canne à sucre, qui en fait vient d'Asie du Sud-Est, qui était déjà connue pendant l'Antiquité, Pline l'Ancien d'ailleurs en fait référence, et qui ensuite a été exportée par les Européens dans les îles d'Amérique centrale.
Si on veut découvrir ce lieu, c'est ouvert tous les jours, comment faire?
C'est ouvert effectivement actuellement tous les jours. On peut visiter l'exposition, le musée, donc ou bien le monument ou les jardins. Voilà, c'est ouvert de 10h à 19h.
Vous avez un site internet aussi?
On a un site internet où on met effectivement, on donne un certain nombre d'actualités et puis on a aussi notre page Facebook qui est assez dynamique. Et aussi, je précise, possibilité de visiter le site avec un visio-guide. Donc c'est comme un audio-guide, mais c'est un smartphone qui permet de se promener sur le site en découvrant les jardins et le monument.
Merci.